Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et ce soir, ça se passe non pas dans le studio, mais dans ta maison. NXT TakeOver In Your House, édition 2021. Avec moi, pour analyser ce show exceptionnel, j'ai Papy. Salut Papy.
Bonjour les enfants, bonjour Irem, comment vas-tu ?
Je vais très bien, mais j'ai une question à te poser. Qui était cet agaçant animateur qui était un petit peu le fil rouge de l'émission et qui n'arrêtait pas de faire des vignettes assez ridicules ? Est-ce que c'est un ancien mec qui présentait les vieilles versions de NXT In Your House ou est-ce que c'est une star de la télé américaine ?
Alors moi, je dirais que c'est un ancien mec qui présentait les WWF In Your House à l'époque.
Ok, c'est ce que je me suis dit également.
Mais je suis. Alors, c'est bête qu'on n'a pas Ringside sous la main parce que c'est l'expert des In Your House. Mais il me semble que c'est ça. C'était justement, il avait annoncé dans les semaines d'avant en disant qu'il serait un participant. Et vu son style purement 90s, j'aurais bien dit ça, que c'était un ancien gars qui tient le host Todd Pettengill. Et Todd Pettengill, qu'est-ce qu'il faisait ce garçon ? Il travaillait à la World Wrestling Federation. Donc, il faisait notamment les In Your House. Voilà, je te confirme ça, il travaillait dans les années 90 à la WWF.
Effectivement, j'ai sous les yeux, parce que grâce à Internet, c'est assez incroyable, une pelletée d'images de lui dans sa jeunesse. Et effectivement, il a toujours été là, ce monsieur. Donc effectivement, on a commencé le pay-per-view avec une petite dose de nostalgie, hein, avec un petit package vidéo qui faisait plein de clins d'œil à cette vieille, on va dire, ce vieux rendez-vous, hein, In Your House.
Voilà, c'est ce cœur de jeunesse.
Avec tout ce décorum, avec la petite maison, la petite porte à travers laquelle on passe son adversaire. Et dorénavant, c'est NXT qui a repris ce vieux gimmick. On change pas une formule qui gagne. NXT TakeOver, c'est 5 matchs. On est d'accord.
Ça ne bouge jamais.
Je crois qu'une fois, ça a bougé.
Je demande si le takeover de Mania, c'était pas 2x4 matchs plutôt que les 5 matchs habituels, par exemple.
Ouais. Je me demande même si on n'avait pas une fois 6 matchs.
Oula, c'est trop là. Ouais, oui, parce que il y a une fois où je crois il y avait un match de 10 secondes avec, comment il s'appelle là, l'ancien pote de Cesaro, Crisero, Cassius Ohno.
Eh ben non, justement. Justement, détrompe-toi, je m'en souviens parfaitement, à l'époque, ce match de 10 secondes était un des 5 matchs.
Ah, bon voilà, j'ai fait une erreur.
Il y avait 4 gros matchs, on était là, mais il n'y a que 4 matchs prévus. Toi, tout le monde était étonné, parce qu'on aime bien nos petites habitudes. Et ils avaient placé ce petit match imprévu de 10 secondes avec Cassius Ohno et Riddle, qui était connu à l'époque sous le nom de Matt Riddle.
Ah, c'était le début de Riddle alors.
Mais voilà, il me semble qu'il y avait un takeover avec 6 matchs. Et ben, j'invite tous nos auditeurs et nos auditrices à mentionner ce takeover s'il a vraiment existé dans les commentaires de la vidéo YouTube.
Allez-y, les fact-checkers.
5 matchs ce soir à fact-checker et analyser. Le premier, et ben, écoute, un enjeu qu'on ne voit pas souvent et un enjeu que moi j'adore, même si peut-être là il n'y avait pas forcément énormément de surprises, c'est peut-être d'ailleurs un des maîtres mots de ce NXT TakeOver, un winner's take all, puisque chaque participant remet en jeu son titre et ce soir dans ce match, il y a le titre nord-américain et le titre tag team remis en jeu par Bronson Reed et MSK face à la faction Legado del Fantasma. Est-ce que tu aimes, d'abord, avant que je fasse se dérouler, est-ce que tu aimes ce genre de stipulation ?
Ah, moi, j'aime beaucoup ce genre de stipulation. On en avait parlé avec Ringside dans l'analyse de cette semaine, enfin de la semaine dernière, du coup. Et c'est vrai que c'est sympa. Alors, le seul truc qui était un peu étonnant, c'est que c'était un winner take all, mais tu avais une équipe qui apportait tout et l'autre équipe qui apportait rien. Donc, c'est toujours un petit peu dommage qu'ils aient rien en jeu. Ils auraient pu dire dans ces cas-là, vous vous séparez ou vous quittez NXT ou. Ou alors, je sais pas, vous faites la vaisselle pendant un mois, ou n'importe quoi, tu vois. Mais là, ils avaient vraiment rien à apporter, quoi.
Ouais, effectivement, c'est. Disons qu'effectivement, que voilà, évidemment, que tu as une ceinture de chaque côté, à moins d'avoir un twist final, tu es sûr qu'il va y avoir de la surprise et que au moins un nouveau champion va être couronné. Là, ce soir, bah, c'est tout ou rien, en fait. Hein. All-in, comme on dit. Alors, ce match, il était plutôt bien foutu, avec évidemment beaucoup de rythme et d'athlétisme, si je puis dire, avec 5 des 6 participants. Le 6e participant, lui, il est un peu plus gros, un peu plus costaud. C'est le gorille Bronson Reed, et qui, lui, quand il entre dans le match, il vient pour tout péter. Mais il entre pas tout de suite. C'est d'abord Mendoza et Lee qui commencent en échangeant des rapides takedowns avec des échanges de reversal. Et voilà, on va à 100 à l'heure. En plus, c'est Carter et Wilder qui entrent et qui font un peu la même chose. Donc là, c'est vraiment démonstration de rapidité et d'agilité entre les deux tag teams. Et évidemment, les choses changent quand l'homme de 150 kilos, j'en sais rien, à vue d'œil, peut-être 200, allez, disons 300 kilos, entre dans le ring.
Allez, on est parti.
Bronson Reed, il en vaut bien deux, débarque. Et là, pour Escobar, c'est pas la même mayonnaise. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait, Escobar? Il fait un tag sur Wild, sur un de ses hommes de main, qui a pas l'air très heureux, pas l'air d'être très ravi d'aller se frotter à ce gros gaillard. Au passage, le champion nord-américain a failli rapidement remporter la mise avec un big slam. Après, il y a un gros triple move là, qui est fait avec l'assistance de MSK pour un compte de deux. Tout le monde se balance des dives tout autour du ring, jusqu'à ce que justement Bronson Reed lui place un énorme suicide dive gigantesque à la mesure du bonhomme. On retourne dans le ring, la faction Legado del Fantasma reprend le contrôle, notamment en gardant Lee isolé, hein. Ça on aime bien hein, quand on est des heels d'isoler quelqu'un dans le coin et de le faire souffrir à tour de rôle. On se passe comme ça, on se fait des quick tags. Et Reed en profite, on va dire, débloque la situation en plaçant Escobar à travers les barricades d'insécurité. Il est out complètement, Escobar. Il est out, cancel là, pour le reste du match, qui permet à Reed et MSK de se focaliser sur Wild et Mendoza pour placer un finish, le tsunami. Victoire des gentils face aux méchants. Belle entrée en matière. C'était fun. C'était drôle. C'était agile. MSK, ils ont peut-être l'air complètement cons là, en partie tougher, là, mais ils se connaissent comme les deux doigts de la main. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener?
Un opener qui fait le job. Hein. C'est-à-dire qui fait monter la pression petit à petit, qui fait... Lui qui se chauffe petit à petit, qui s'embarque de plus en plus au fur et à mesure du match, parce qu'en plus, je crois que c'était la première fois qu'on avait une vraie foule dans le Capitol Center, là, vu qu'il n'y avait pas les écrans comme d'habitude, il y avait un peu plus de monde, alors pas non plus des millions de personnes, mais il y avait quelques centaines, j'ai envie de dire, peut-être, de personnes qui étaient là, donc ça mettait une ambiance. Et donc, ils ont été plutôt conquis par cette entrée en matière, moi aussi. Ça a envoyé des deux côtés. Le match, j'ai trouvé que c'était plutôt bien pensé, qu'il n'est pas cramé totalement à faire du overbooking de malade, hein. Et une fin finalement assez classique où les méchants sont éliminés un par un, puis il reste. Alors je ne sais plus qui prend le tombé, c'est peut-être Raul Mendoza qui doit prendre le tombé parmi les deux de Legado del Fantasma. Mais voilà quoi, donc ça se finit classiquement. Bonne durée, il a duré 13 minutes 40 le match. C'était ce qu'il fallait pour lancer la soirée et je pense que tout le monde en sort globalement grandi de cette confrontation.
Ouais, moi c'est pareil. Hein. C'était le match idéal pour cet opener, pour ouvrir le show. Gros rythme. J'adore la faction Legado del Fantasma. Je suis impatient de les voir continuer à tourner autour des titres d'une façon ou d'une autre, notamment Escobar. Et Bronson Reed, je trouve qu'il porte bien pour l'instant la responsabilité qu'on lui a donnée avec ce titre. Il est très divertissant, il est très impressionnant. Là, son finisher, le tsunami, c'est costaud. Il a l'air d'être, il est très à l'aise. Et puis MSK, alors MSK, ils m'ont pas encore entièrement convaincu. C'est pas trop ma tasse de thé, à vrai dire. J'aime pas trop leur gimmick. Ils sont assez, je les trouve assez génériques. Oui. En plus, ils ont des noms génériques parce que comment c'est Wesley et Nash Carter.
C'est ça.
Ouais. On dirait un vieux rip-off de Indiana Jones par Disney, tu sais, qu'on avait un petit peu les B-movies ou je sais pas quoi, où ils essayaient de créer des nouveaux héros et t'avais toujours
Nash Carter et Wesley.
Non, mais
à la poursuite de la pierre magique.
Mais oui. C'est vrai qu'on se croirait à Once Upon a Time in Hollywood, quoi. C'est vraiment des noms d'acteurs américains de seconde zone. Mais ouais, ils ont quand même une sacrée alchimie et une fluidité assez, assez incroyable, quoi. Ça commence dès leur entrée et après, quand ils font les enchaînements de moves, on sent que les mecs se connaissent depuis un bon bout de temps et c'est. Visuellement, c'est propre et ça rentre bien dans ce genre de match. Franchement, ça marche bien dans ce genre de match. Des fois, dans les 2v2, c'est un peu too much. Mais là, avec la paire qu'ils ont fait, même s'ils étaient trois, mais vous m'aurez compris, la paire qu'ils ont fait avec Bronson Reed, elle fonctionne du feu de Dieu. Et les deux ensemble, comme c'est des jeunes, hein, ils débarquent à NXT il n'y a pas longtemps, ça fonctionne vraiment, vraiment bien.
Ouais, alors comme je dis souvent, pour l'instant, j'arrive pas à les distinguer. Lequel des deux est Nash Carter, lequel des deux est Wesley, même s'ils ne se ressemblent pas du tout. Mais donc voilà, donc c'est effectivement dans le ring, ça envoie du pâté. Ce qu'il leur faut maintenant, c'est peut-être se trouver des segments plus réguliers au micro, et puis voilà, commencer à travailler ce dont ils auront besoin le jour où ils débarqueront dans le main roster. Parce que malheureusement, on le sait, faire le spectacle, ça suffit pas. Donc,
ouais, après, même je serais tenté de te dire, même à NXT, c'est important de savoir aussi tenir son micro, hein. Et effectivement, la MSK, là, ils sont un petit peu à la. Ils partent de loin, mais bon, bah, c'est toujours, à ce qui paraît, un performance center. NXT, c'est toujours une division aussi où on apprend les choses. Voilà. Donc, apprenons ensemble.
Tout à fait.
On parle de jeunesse. Ce soir, c'était un petit peu. Le deuxième match, c'est un petit peu, voilà, une jeune contre une vétéran, division féminine. Alors, assez étonnant. Puisque, je serais tenté de dire, c'est pas tous les takeovers que la division féminine a droit à un match qui n'est pas pour le titre.
Oui, j'étais d'accord avec toi, j'étais surpris aussi.
Et que mine de rien, on en a parlé au début, il n'y a que 5 matchs, sauf qu'il y en a 6, mais ça, vous allez nous le dire, quand est-ce que c'était. Et du coup, de placer un match sans enjeu de titre féminin, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de ceintures à NXT, contrairement au début, on peut se dire que Xiali, puisque c'est d'elle dont on va parler, et Mercedes Martinez, par la même occasion, ont toute l'attention à l'heure actuelle des bookers, puisqu'elles ont eu droit donc à ce deuxième match à TakeOver, avec en plus un rappel à leur passif, puisqu'il y a 4 ans, lors de ce tournoi du Mae Young Classic, qui me manque énormément, je sais pas toi, mais moi ça me manque, tous ces petits tournois.
Oui, c'était une petite pause des bonnes respirations, et puis ça permettait de découvrir pas mal de. Surtout pour les gens comme moi qui ne regardent pas du tout le circuit indie, avaient des belles découvertes. Et notamment là, les deux filles en l'occurrence, on les avait découvertes à l'occasion de ce tournoi.
Ouais. Et à l'occasion de ce tournoi, Martinez avait détruit Xiali. Martinez, vétéran des rings, depuis des années et des années, des dizaines d'années, sans vouloir lui faire ombrage, s'était débarrassé de Xiali, qui à l'époque était jeune et naïve. Mais aujourd'hui, elle n'est plus jeune, elle n'est plus naïve.
Ah non.
Et non, elle a été prise sous l'aile, si je puis dire, l'aile diabolique de.
Mei Ying,
tout à fait. J'avais complètement. Et la faction, c'est Tiansha, c'est ça, hein.
Alors, je ne saurais plus le dire exactement. Tu vois, j'ai un gros doute là. Mais c'est je ne sais plus le nom. C'est Tiansha, c'est ça, parfait.
Ou Tiansha, c'est le. Oui, et Boa.
Boa, c'est le garde du corps.
C'est le garde du corps qui, d'ailleurs, pendant le match, fait un très nul garde du corps. puisqu'il ne garde pas du tout le corps de Xiali, puisqu'à un moment donné, il se retrouve face à face à Martinez, et limite, il la laisse passer, quoi. Il ne veut pas intervenir, parce que sinon, ça causerait la DQ, mais il n'impose pas sa taille et sa force.
Pour l'instant, Boa, il est passé... C'est un peu comme Shali, hein, c'est les quelques Chinois qu'ils ont apportés pour NXT, comme ils ont fait aussi parfois avec des personnes indiennes. Alors Shali, elle avait eu la chance de débuter au Mae Young Classic. Boa, effectivement, on sait qu'il est arrivé, mais depuis, il fait pas grand-chose, quoi. Et donc, je suis même pas sûr qu'il ait déjà eu un match. Peut-être si dans un tournoi à la con ou dans une bataille royale ou un truc comme ça, mais.
Bon, oh, voilà, il a peut-être fait un petit coucou, tu sais, à la bataille royale géante de 60 participants en Arabie Saoudite.
Voilà, c'est ça. Il a dû faire un passage un jour comme ça, mais bon, sinon, il est depuis quand ? Depuis 2016, quand même, hein, au Performance Center. Donc, et ils étaient trois Chinois qui sont arrivés en 2017, c'est ça. Donc c'est des toutes petites générations qui sont arrivées, puis bah, ils commencent à enfin avoir du temps d'antenne avec ce clan.
Qu'elle avait comme arme cette fois-ci là, pendant sa super entrée qui est vraiment géniale, là, Xiali, là, l'entrée, j'ai envie de la voir en live ça. Parce qu'elle vient toujours avec des armes différentes, un peu comme les Tortues Ninja. Là,
là c'est une espèce de. Comment on pourrait appeler ça, un sabre un peu coupé au bout là.
Mi-sabre, mi-lance.
Voilà, un truc. Oui, c'est ça. Bon. Vous verrez. Hein, à regarder le match, comme ça vous saurez.
En tout cas, elle a une sacrée armurerie à la maison, ça c'est sûr. Bon, les deux commencent le match, finissent assez rapidement là en dehors du ring. Martinez prend le contrôle jusqu'à ce que Lee justement fasse une prise pour un peu illégale là pour la maîtriser. Lee donc qui reprend le contrôle cette fois-ci et elle se retrouve donc ringside. Lee se bouffe le ring post. Elle manque d'être éliminée par décompte à l'extérieur. Après voilà un petit retour sur le ring. Grosse série de kicks de Xiali hein, qui du coup, va placer un énorme kick un petit peu plus tard pour la victoire, un petit peu surprise, peut-être hors tempo à ce moment-là, puisqu'il y a une grosse séquence, hein, je vous en avais parlé juste avant, en dehors du ring, avec Bois qui était là, qui intervient, n'intervient pas trop, et finalement, il n'y a pas eu trop de construction. Tu sais, souvent, il y a un, deux, trois temps, c'est comme au théâtre. Hein, il y a trois actes. Là, j'ai l'impression qu'il manquait le troisième acte et que finalement, ce troisième acte, c'est ce qui s'est passé post-match avec Bois qui donne à Xiali une chaise. Et Xiali hésite, et ce qui permet à Martinez de se relever et d'attaquer Xiali. Avec la chaise d'ailleurs elle y va généreusement puisque Boa il s'en prend une bonne pelletée là. C'est assez marrant parce que le mec c'est limite s'il y allait pas pour s'en prendre quoi, un peu maso et ça va se jouer entre Martinez et donc cette espèce de fille maudite hein, Maying qui les deux femmes vont se toiser. Et Maying va en venir même aux mains, puisqu'elle va attraper, choper Martinez à la gorge et va la balancer. Ah oui, c'est ça. Hein, et va la balancer depuis la
lampe.
La rampe d'accès, oui, tout simplement. Une chute un petit peu bizarre, un petit peu étrange. Écoute, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ?
Ah, je suis partagé sur l'ensemble de ce match et ce segment. Parce que, alors moi je fais partie des fans en fait, enfin des fans, des personnes qui apprécient beaucoup ce repackaging de Shali et tout le mystère toute l'histoire qui mettent autour. Ça c'est vraiment un truc qui me plaît bien. Ça c'est le côté positif. Côté négatif, je suis un peu surpris qu'ils mettent ce match là directement sur la carte d'un takeover. Alors que, comme tu dis, c'est rare qu'on ait un match comme ça sans enjeu entre deux filles. Et surtout, Shelly, elle a pas fait grand chose en weekly en fait jusqu'à présent. Elle a juste tabassé les naines, la copine de Ricochet et une autre. Et à part ça, elle a pas fait grand chose. Donc il y a eu un montage express de rivalité. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont miser dessus? Je ne saurais pas dire. Derrière le match, je suis d'accord avec toi. Le finish est totalement hors tempo. Si bien que bah, moi, comme souvent dans ces cas-là, je me fais avoir. C'est-à-dire que je regarde autre chose, je regarde mon téléphone, je relève la tête, boum, il a dû le tomber, je l'ai raté, merde, machine arrière, faut que je revoie le finish. Donc effectivement, elle était hors ring, puis elle remonte, et puis je sais pas, un pauvre échange, puis pouf, finish. Donc c'était très surprenant. Et derrière la scène post-match, je pense que c'est ça qui justifie en fait la place en pay-per-view. C'est l'attaque du coup par Mei Ying et qui du coup bah moi je m'étais dit bah c'est peut-être juste une actrice Mei Ying et puis qui va pas catcher, mais là d'un coup il la montre comme quelqu'un de pur puissant, donc je me dis est-ce qu'il y a pas derrière aussi une catcheuse qui va arriver bah pour dire bah que qui est la chef du clan et que ce sera elle la vraie star du clan. Je ne saurais pas dire, voilà. Donc je suis à la fois, c'était pas parfait, mais en même temps, l'histoire m'intéresse beaucoup.
Ouais.
Donc,
je suis vraiment très emmerdé par ce match. Je suis même assez déçu. Je suis très content qu'il ait été là, quoi, qu'il nous était présenté, qu'il ait eu une place sur la carte de TakeOver. Après coup, je me dis il n'avait pas forcément sa place, mais j'imagine qu'effectivement, ils veulent nous raconter une histoire assez importante qui va piloter, qui va faire partie de la programmation des weekly à suivre. Mais le match, je l'ai trouvé assez décevant. On n'a pas eu à se mettre grand chose sous la dent. Hein. Ça a duré quoi? Ça n'a même pas duré 10 minutes cette histoire.
7 minutes 40.
Ouais. Je dis, il n'y a pas eu toutes les phases classiques, quoi. Même offensivement, Xali, on n'a pas vu grand chose. On nous a surtout montré une Martinez assez destructrice et finalement qui se fait un petit peu avoir, bah, comme nous, j'étais comme toi, moi j'étais en train de tremper mon chips dans une sauce, voilà, et quand je relève la tête, je fais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
Bah merde, il se passait quoi?
J'aurais dû garder mon chips au sec.
Voilà, jamais tremper son chips.
Dans une sauce inconnue.
Voilà.
Et après, moi, ce qui m'embête aussi dans la séquence post-match, c'est qu'on met le focus n'est plus du tout sur Xiali, quoi. Il se met sur Mei Ying, et ça m'embête parce que, enfin, il faut y aller avec Xiali, quoi. C'est elle la star. C'est elle la star, c'est pas Mei Ying. Et ce qui me ferait peur, c'est que, en fait, tout d'un coup, la star, ce soit Mei Ying. Et qu'on se désintéresse un petit peu de Xiali, qui l'a paru presque faible, je trouve. Et que en fait, on ait fait fausse route en s'enthousiasmant sur Xiali et que la véritable star se cacherait derrière Mei Ying. Donc ouais, voilà, j'ai un peu peur.
Ouais, elle pourrait. Enfin, après, c'est pareil sur ce truc-là. Je suis partagé parce que je me dis que Xiali, elle pourrait peut-être faire une bonne femme, femme de main. Je sais pas si ça se dit de Mei Ying, enforcer de Mei Ying finalement. Mais ce qui m'embête, en fait, ce qui me perturbe, c'est que après, je suis pas tous les dirt sheets, mais je ne sais pas qui se cache derrière Mei Ying, mais j'ai pas le souvenir qui est une super star, on va dire asiatique pour pas dire chinoise, qui est signée à la WWE, qui est gardée sous le coude, quoi. Et donc, si la meilleure catcheuse, c'est Shelly et qu'ils mettent le focus sur Mei Ying, ça serait dommage, quoi. Parce que autant Mei Ying, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière, si elle s'est catchée ou quoi que ce soit. Autant Shelly, on a comme certaines assurances par rapport à son niveau. C'est pas exceptionnel, mais c'est propre et elle sait ce qu'elle doit faire, quoi.
Donc, elle apporte énormément d'intensité. Hein.
Donc, si. Ouais, je ne sais pas si ça vaut le risque. Après, mais bon, manifestement, en tout cas, c'est un sujet sur lequel il travaille depuis un bout de temps, parce que là, ça commence à faire quelques temps qu'on tourne autour de cette histoire.
Histoire intrigante à suivre, c'est sûr. Ils ont titillé notre curiosité, à ne pas en douter.
Yes.
Je disais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ceintures à NXT. Et bien, tu sais quelle est la merveilleuse idée qu'ils ont eue
à NXT? Ah bah oui, moi je le sais.
Et c'est quoi?
C'est de faire revivre une ceinture, des Night Teaser, une belle ceinture avec plein de petits diamants dessus.
Et ouais, Le Million Dollar Championship est de retour. Vous pensiez qu'il y avait suffisamment de ceintures à NXT, bah boum, en voilà une autre. Les bookers ne pensent pas la même chose que vous. Ted DiBiase, il débarque accompagné de deux gardes et surtout accompagné de la ceinture, le titre de champion du million de dollars, donc tout en serti de rubis, de diamants, de topaz et toutes les pierres précieuses les plus incroyables de la Terre. La ceinture n'a pas changé, à vrai dire, ça m'a l'air d'être la même. Hein. J'ai pas remarqué.
Oui, Bob.
Voilà.
Pas c'est le même. À la recostumité. Hein.
D'ailleurs, question, est-ce que d'après toi, ça va être dans la lignée, on réactive la lignée de champion de ce titre?
Pour moi, oui. Après, je pense, tu parlais qu'il y a beaucoup de ceintures. Je pense que c'est, comment dire ça? C'est pas un titre à proprement parler, c'est plus dans l'esprit King of the Ring en fait, en disant bah voilà, c'est un titre honorifique qui apparaît de temps en temps, disparaît de temps en temps, et puis voilà. Et donc du coup, pour info, du coup, tiens, hop, j'ai fact-checké moi-même, ça sera donc la personne qui sera championne sera le sixième détenteur de cette ceinture, puisque nous avons eu trois titres de Ted DiBiase, deux du père et un du fils. Un de Virgil et le dernier de Stone Cold Steve Austin. Voilà.
Ah bah alors ça, j'avais complètement oublié que Stone Cold avait chopé ce titre. Alors effectivement, c'est dit détenteur et non pas champion. Mais tu as peut-être raison. Je ne sais pas si ça apparaîtra dans considéré comme étant un titre officiel. Mais voilà, donc et d'accord, la lignée va continuer. Ça va se jouer dans un ladder match puisque la ceinture est donc placé, surélevé, attaché au-dessus du ring. La stipule, c'est donc un match d'échelle. Deuxième stipulation un peu exotique de la soirée. LA Knight versus Cameron Grimes. Knight qui va utiliser toute sa puissance hein, pour se débarrasser de Grimes assez rapidement. Grimes se rebiffe, il empêche Knight de commencer à grimper sur la première échelle qui sera apportée sur le ring. Grimes va par plusieurs occasions éviter de justesse de se faire écraser, écrabouiller par l'échelle. On sait que l'échelle, quand elle tombe, elle peut faire très très mal. On a déjà vu des images terribles hein, de catcheurs un petit peu naïfs, innocents, ne pas voir l'échelle leur tomber sur le coin de la figure. Et une échelle qui tombe sur le coin de la figure, ça fait mal.
Ah, fait bobo.
On utilise l'échelle aussi comme arme plusieurs fois, même si j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu beaucoup d'originalité à ce niveau-là ce soir. Je sais pas si toi t'as eu des spots comme ça qui t'ont marqué particulièrement,
trouvé
original.
C'était en plus de deux mecs qui sont assez brawlers dans le style, quoi. Donc ça tapait fort à chaque fois. Mais j'ai pas effectivement de spot vraiment marquant.
Ouais, c'est-à-dire que le spot le plus extravagant, c'est quand chacun prenait son échelle et tapait sur l'échelle de l'autre, quoi.
Voilà, la guerre, il faisait les sabres laser avec des échelles.
Effectivement, ça ressemblait un petit peu à ça. Tu fais un montage avec les bruits de Star Wars et tu as un nouveau film de fans sur YouTube avec beaucoup de succès. Grimes qui balance Knight sur l'échelle avec une très belle German Souplesse. Knight va se venger avec un neckbreaker très très sale hein, sur la tranche, l'arête de l'échelle.
Ah oui, tu parlais de ce truc marquant, celui-là il est marquant quand même.
Ouais, il est marquant psychologiquement et physiquement. Grimes là, il a serré les dents.
Ah ouais, on l'a tout serré pour lui.
Ça et me rappelle un spot entre Kevin Owens, je crois, et Sami Zayn qui était un peu du même genre.
Oh bah c'est les spécialistes, hein. Genre je te faire tomber la nuque sur une chaise ou sur un pied de table ou sur je ne sais pas quoi, ils aiment bien se faire peur les gars.
Ah oui, je t'empale le dos sur le pied de l'échelle que j'ai placé verticalement à l'envers.
Et que j'ai taillé aussi avant, tu vois, juste vraiment pour faire le...
Oui, le avec son petit calif.
Voilà, ta, je te prends par l'échelle, bouge pas.
Innovation les gars, eh ouais, c'est ça le circuit indé, nous on apporte quelque chose.
Vive les indies.
Bon, ça continue à se balancer sur la tronche. Grimes arrive avec la plus grosse échelle, hein, parce qu'il y a toujours plusieurs tailles, hein, XL, XS, M, L. Je ne sais pas quel genre de taille d'échelle tu affectionnes particulièrement.
Ah, moi, je t'avouerai que les celles qui vont le moins haut possible.
Ah oui, celle du con, quoi.
Voilà, le petit escabeau, c'est très bien, c'est suffisant.
Surtout que c'est Hans Vogel qui l'apporte. Tu dis voilà. Là, le mec ne veut pas gagner.
Il se la range sous le ring, là, clac, et puis tu montes. Ah oui, j'ai gagné 10 cm, c'est bien.
Knight fait tomber Grimes, qui était tout en haut de l'échelle. Grimes revient, il place un gros dive. Knight balance Grimes, il se débarrasse de Grimes une bonne fois pour toutes en balançant dans une échelle. Il grimpe, il décroche la ceinture. LA Knight, le heel, devient donc le 6e détenteur du Million Dollar Championship. Sous les applaudissements de Ted DiBiase, LA Knight manque d'ailleurs de tomber tellement il est content d'avoir ce titre. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et est-ce que tu trouves que LA Knight fait un très beau nouveau champion?
Alors oui, c'était mon pronostic en plus, LA Knight. Je jugeais que la ceinture, million de dollars ceinture, ça pouvait être détenu quasiment que par un heel. Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, c'est pas un vrai titre. C'est un titre plutôt pour en foutre plein les yeux, tout ça. Donc, un peu comme le King of the Ring d'ailleurs. C'est des titres pour moi qui sont majoritairement à donner pour deal parce que bah, ça habille un peu leur personnage et puis ils vont pouvoir en faire des caisses et tout. Alors pourquoi pas qu'un face court après la ceinture, pourquoi pas. Mais par contre, le détenteur, ça doit être un heel et donc du coup, je trouve ça très bien d'avoir choisi LA Knight pour le faire. J'ai trouvé ça assez long quand même et surtout la mise en place de la ceinture. Je sais pas si t'as remarqué, mais ça prend trois plombes quoi. Les mecs, ils blablataient. Et si tu vas voir l'échelle, je vais la monter. Ah bah pourquoi elle n'est pas encore arrivée là-haut? Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Ça prenait trois plombes quoi. C'était assez long à se mettre en place. Le match en lui-même a fait comme 19 minutes 30. Ça sera le deuxième plus long match de la soirée. Voilà. Et pas forcément toujours spectaculaire. Alors, c'est à la fois pas spectaculaire, mais en même temps, c'était opérateur de construction là. Là, t'as bien eu la montée en puissance progressive. Cameron Grimes était bien soutenu par le public, j'étais surpris parce que bah voilà, quand t'as le public qui revient, c'est là où tu te rends compte un peu si les aliments sont suivis ou pas. Et Cameron Grimes, je pensais pas du tout qu'il serait suivi par le public, et a priori bah, même sa catchphrase elle a plutôt bien passé, donc à moins qu'ils aient bidouillé de nouveau le son avec les ingé sons, mais ça me semblait plutôt bien marcher pour lui. Et puis voilà, il y a le reste est vraiment classique. Moi je suis pas surpris du tout du résultat. Et juste une dernière chose, il y a quand même, on voit que c'est comme NXT. Il y a eu un beau plantage, beau foirage d'angle de caméra à un moment où ils se retrouvent tous les deux par terre en dehors du ring. Et ils se mettent à raconter à la suite des spots avec l'arbitre à côté. Et là, tu as la caméra qui est en gros plan sur LA Knight en train de le voir, en train de palmater avec Cameron Grimes. Ça faisait pas très sérieux, ça.
Ouais, effectivement, je l'ai repéré aussi. Là, le mec, je sais pas, ils ont dû se dire, ils sont pas en train de nous le filmer, là, c'est pas possible, parce que le mec, c'est d'habitude, ils prennent un peu les mecs font semblant de s'engueuler, toi, ils se passent des consignes, mais en restant dans le personnage, toi, genre le heel, il est là, à invectiver le pauvre face qui est complètement sonné, un peu à la Stone Cold, tu sais, quoi, il gueule comme ça, en étant tout excité, et en fait, il en profite pour dire des trucs, genre, attends, le prochain spot, ça va être ça. Or que là, effectivement, ils étaient censés être sonnés. Et le mec, il lève la tête comme ça, puis il fait « Bon, ça va toi, Silo, ce soir, on se retrouve au catering, là ?»
J'ai vu une petite tarte à la fraise, là, on se la mangera tout à l'heure.
Ah, le Paris-Brest, tu restais plus qu'un. C'est toi qui l'as bouffé, hein, salaud.
Salopard, bah. Je vais te faire tomber d'une échelle.
Bon, écoute, effectivement, j'ai trouvé qu'ils ont quand même réussi pas trop mal cet exercice de brawler, comme tu l'as dit, dans une stipulation qu'on prédestine plus souvent, on va plus souvent placer voilà des cascadeurs, des acrobates pour nous offrir
des spots, flyers, ouais.
Voilà, des spots assez incroyables. Là, on était plus effectivement dans le côté, on n'a pas énormément de spots, mais ils font de plus en plus mal, quoi. Au début, voilà, on se pousse gentiment, tranquillement, et puis après, on commence à se balancer. Le dos sur la tranche, sur l'arête de l'échelle, et puis voilà, ça monte comme ça. Voilà, c'est une fois de plus un peu comme le match d'avant, hein, finalement, pas des top stars de NXT, mais qui ont quand même réussi à avoir une place sur ce takeover. On est clairement dans une période un petit peu particulière, d'ailleurs on le verra avec le main event qui elle était plutôt un all-star 5 game. Là, on nous a placé comme ça des matchs avec la mid-card, certains diraient presque de la low-card de NXT. Et les mecs arrivent quand même, ont quand même réussi à délivrer un match qui était assez solide. Et effectivement, avec. Je pense, voilà, une preuve qu'avec le retour du public, ce genre de match-là peut bien fonctionner, puisque tu l'as bien dit, ça embarque derrière Grimes. Et LA Knight, il va être aussi agaçant qu'un Miz. Et du coup, c'est simple, on a le heel, on a le face, et on a le méchant qui remporte le titre. Malgré un face drôle et valeureux, donc une formule assez simple et qui a plutôt pas trop mal fonctionné.
Ouais, c'est comme tu dis, c'est un match qui est surprenant de se trouver sur cette carte-là, mais qui pour le coup, je trouve, a été d'un niveau d'un pay-per-view. Là, ils ont fait la durée, le suspense, la stipulation. Il n'y a pas de regret de l'avoir eu sur la carte.
Non. Bon, allez, c'est l'heure des vrais titres, si tu veux bien.
Allez, on y va.
Voilà, que les titres en plastique, là, c'est bon. Le titre féminin, Raquel Gonzalez, est défendu ce soir contre une ancienne championne. Hein. On nous le rappelle, dans un packaging, celle qui avait récupéré le titre laissé vacant par Asuka passe à Nikki Cross. Souvenez-vous, à l'époque, Nikki Cross, elle était en feu. Tout feu, tout flamme. Ember Moon, donc une ancienne championne qui veut récupérer le titre qu'il avait rendu célèbre à l'époque, et Raquel Gonzalez qui a beaucoup à prouver qu'elle n'est pas juste une championne limite de transition qui a gagné son titre un petit peu par erreur. Elle est super super débutante, Raquel Gonzalez, en tout cas à NXT, et autant, on va dire, qu'effablement que pour nous les spectateurs, en tout cas pour moi, à mes yeux, elle avait aussi beaucoup de choses à prouver ce soir. J'attendais aussi un peu un big match référence, hein. Elle a besoin d'un match référence, Raquel Gonzalez. Puisque voilà, son match face à Yoshirai pour récupérer le titre m'avait pas forcément emballé plus que ça. Et voilà, à la recherche du match référence pour Raquel Gonzalez, est-ce que c'était ce soir? Eh bien, on va le voir ensemble et tu nous diras, papy, ce que tu en as pensé. Dakota Kai est là pour accompagner Gonzalez. Shotzi Blackheart n'est pas là pour accompagner Ember Moon puisqu'elle avait été blessé.
Une grosse attaque d'ailleurs de Raquel.
Voilà, dans les weekly. Moon place un dropkick très 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 rapidement. Hein. L'arbitre a à peine fait sonner la cloche. Ember Moon veut la jouer rapide, simple et efficace. Très agressive. Des gros coups. Gonzalez finit par arrêter le momentum. Et elle envoie Ember Moon à travers les barricades avec un énorme coup d'épaule. Donc la powerhouse de NXT commence à malmener Ember Moon à base de slam avec ses bras hein, impressionnants, massifs. Elle a des sacrées épaules, des sacrées omoplates. Ember Moon réussit à reprendre un peu de momentum, toujours avec cette grosse série là de coups hein, rapides qu'elle place. Suivi d'un code red pour le compte de deux. L'ancienne championne tente alors de placer Raquel dans une prise de soumission, mais Gonzalez, grâce à l'aide de Dakota Kai, s'en sort. Mais Gonzalez se prend dans la foulée un suicide dive de la part d'Ember Moon. Moon qui ne veut pas abandonner, hein, Moon qui donne tout. Hein. C'est un peu le grand jeu d'ailleurs, elle aussi, elle doit prouver qu'elle est toujours. Qu'elle est toujours legit, comme on dit. Elle place un énorme éclipse sur Gonzalez, mais au moment du tombé, Vlatipa que Dakota Kai vient se remêler des affaires de Gonzalez et d'Ember Moon, puisqu'elle place la jambe, le pied de son ami sur la corde pour casser le compte de 3. Et là, ça vénère Blackheart qui débarque. Et qui court, alors c'est un peu Benny Hill, hein, qui court après Dakota Kai.
Oui, c'est ridicule.
Oui, c'était plutôt ridicule, Benny Hill, donc effectivement. C'était, C'est d'ailleurs la musique qu'on utilisait à l'époque du
Jobber's World.
Jobber's World, tu t'en souviens.
Ah, c'était beau. Je suis un grand fan de cette séquence.
Ouais, on en a pas parlé pendant nos 3 heures de catch-up anniversary, mais c'est vrai que voilà, on avait utilisé le Benil pour toute la low-card. Et là, c'était un grand moment de low-carder, hein, des low-carders qui couraient autour du ring. Moon place un tornado DDT depuis c'est la rampe d'accès. Oui, c'est ça, hein, je crois. Pour un near fall, et Gonzalez finit par placer sa power bomb pour conserver son titre. Donc, victoire de Gonzalez, mais qui a eu une fois de plus besoin de Dakota Kai. Est-ce que le contrat est rempli? Est-ce qu'on a là le match de référence pour notre championne?
Eh bien, pas encore, j'ai envie de dire. Je suis à la fois un grand un grand supporter de Raquel Gonzalez. Je pense qu'elle a d'énormes qualités qui peuvent en faire the next big thing, tu vois, dans le ring. Néanmoins, je ou c'est son booking ou c'est parce qu'elle a pas encore toutes les ficelles du métier, je trouve qu'elle a encore un peu de mal à exécuter et gérer ses matchs, en fait. Là, c'était en gros le show Ember Moon pendant tout le truc, qui a quasiment archi-dominé, hormis 2-3 coups de Raquel Gonzalez dans la truc. Et au final, juste le finish de Raquel Gonzalez qui est out of nowhere, tu vois. Et pendant 12 minutes 40 de durée de match, j'ai vu Ember Moon archi-dominé. Et moi, c'est peut-être moi qui comprends mal le personnage de Raquel Gonzalez, mais ça me gêne toujours vachement qu'elle soit à ce point dominée, à ce point dépendante de l'aide de Dakota Kai, alors qu'elle fait 3 têtes de plus que ses adversaires, quoi. Et j'aimerais bien qu'elle travaille plus sa domination, et que si jamais à un moment elle est en difficulté, c'est parce que l'adversaire plus petit a réussi à la prendre par surprise, à la coincer dans un truc. Bah, normalement, c'est ça, quoi. Tu vois, quand t'as le petit contre le grand. Le petit n'est pas censé battre le grand d'égal à égal, quoi. Il faut qu'à un moment, il trouve un moyen de le piéger, quoi.
Il n'est pas censé le dominer, ouais.
Et Raquel Gonzalez avait déjà été pas mal dominée par Yoshirai. Et là, Rebelote, elle est pas mal dominée par Ember Moon. Alors, c'est peut-être, comme tu le dis, que l'histoire qu'ils veulent nous raconter, c'est qu'elle est débutante et que du coup, par ça, elle se fait encore un peu malmener par les vieux, j'ai envie de dire les vieilles routières, alors qu'elles sont encore jeunes, hein, les filles. Mais bon, les plus expérimentées, on va dire. Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de voir. J'ai pas envie de voir une Raquel Gonzalez débutante qui s'en sort juste parce qu'elle a 3 coups. J'ai envie de voir une Raquel Gonzalez, next big thing, quoi, la fille qui domine, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai toujours un poil de mal avec ces matchs. Après, le match en lui-même est plutôt bon. Il y a pas de botch. Enfin, du moins, j'en ai pas souvenir.
Non, il y a eu des petites approximations, genre le DDT d'Ember Moon, là, qui était un peu chelou sur la fin. Voilà, il y avait des petites choses comme ça, un petit peu juste, mais rien de choquant.
Voilà, rien de choquant. Ils ont pas besoin de se chuchoter à 2 mètres de l'écran pour qu'on le voie. Ils ont pas... Au moins, c'est le communique, ils le font discrètement. Et puis, moi, je considère, enfin, j'essaie en tout cas de considérer NXT comme un show de développement toujours. Et donc, du coup, je vois le développement de Raquel Gonzalez et je lui laisse sa chance de continuer à s'améliorer. Donc, je vais pas non plus lui mettre un carton ni rien. C'est bien pour qu'elle apprenne ce genre de match.
Ouais, je pense que c'est, en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est que c'est le booking qui la protège et qui protège sa jeunesse, en fait. Enfin, qui veut cacher justement le fait qu'elle soit débutante et qu'on veuille pas forcément lui mettre trop de choses sur les épaules dès maintenant, et qu'on va jouer la carte de ce qu'on a vu là, c'est-à-dire une powerhouse qui ne domine pas le match, on va dire qui n'a pas forcément la science du ring face effectivement à des vétérans, et qu'elle souffre face à des vétérans. Et pas face agile qui passe par là, toi. Là, c'est effectivement parce que c'est Ember Moon, une ancienne championne qui a très faim et qui, dès le début du match, l'attaque. Hein, c'est comme ça, c'est ce qu'on nous a raconté. Et du coup, elle est un petit peu submergée par ce qui se passe. Donc voilà, je me dis que c'est ce booking-là qui est là pour la protéger, mais qui du coup nous frustre un peu parce qu'on nous vend quand même une powerhouse, on nous vend une athlète assez incroyable dans la lignée de toutes ces, bah, de toutes les championnes en fait. Hein. On se souvient d'ailleurs de cette image incroyable lors du passage des championnes d'Euro et de SmackDown à NXT. Enfin, c'est des gabarits hors normes. Enfin,
en tout cas, oui, on a trois championnes puissantes. Hein.
Oh là 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 là, puis surtout en termes de corporel quoi, de forme comme musculairement, enfin c'est quelque chose d'assez incroyable, hein, une espèce de Charlotte boostée comme ça, assez visuellement assez incroyable. Et c'est marrant parce que j'ai presque l'impression que de façon un petit peu différente parce qu'elles n'ont pas les mêmes personnages et qu'elles ont pas ne sont pas encore toutes au même point, mais qu'elles souffrent un peu toutes de ça, en fait. Des jeunes filles, des jeunes catcheuses très athlétiques, avec un gros potentiel d'embarquer le public derrière elles, mais qu'on n'ose pas encore mettre complètement, de miser complètement sur la domination physique, ouais, qu'elles sont censées avoir.
À Bianca Belair un peu plus quand même. Hein. Elle est vraiment présentée comme la fille qui physiquement est hors norme. Quoi.
Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Elle a un stade un peu plus avancé quand même, tu as raison. Raquel Gonzalez, elle est un peu à l'autre bout de ce spectre en fait, si tu veux. Elle est vraiment au tout début, c'est-à-dire là, on lui donne aucune clé du match en fait. Elle a zéro clé du match. Elle a le finish et c'est tout, grosso modo.
C'est ça.
Et son finish,
c'est boum.
Ah ouais, c'est impressionnant, c'est un powerbomb à une main, mais t'as envie de voir limite 5 powerbombs à une main qui détruisent l'opposant, toi, t'as envie de voir des filles balancer, alors on a eu un peu ça quand même, elle a balancé un Ember Moon à travers les barricades, c'est assez explosif, mais c'est des petites fulgurances comme ça, et c'est pas encore, on n'est pas encore à la Raquel Gonzalez V2 quoi, on va dire, qui va tout détruire sur son passage. On a encore besoin de Dakota Kai, et c'est pas très grave, mais on espère voir le développement de Raquel Gonzalez continuer à évoluer comme ça, et que le prochain match qu'elle aura, ce sera un match avec un peu plus de dominance. Peut-être même qu'on va trouver une petite stipule pour nous débarrasser de Dakota Kai, et que là, elle devra faire ses preuves.
Ouais, et là, je pense qu'elle... Comme on dit, elle est en train d'apprendre, donc elle fait ses gammes, et donc du coup, bah, elle teste pas de trucs, de situations dans le ring, en fait. Et qu'au fur et à mesure où elle va maîtriser son catch, j'imagine qu'elle va certainement simplifier certains trucs et aller à l'essentiel, en fait. Et du coup, c'est là où elle va, si ça se passe bien, je lui souhaite, c'est là qu'elle va vraiment exploiter son personnage à fond je sais faire la domination parce que je saurais gérer les moments faibles. Enfin voilà, elle saura gérer son histoire, en fait. Mais là, comme elle apprend, du coup, ils la font passer par toutes les étapes classiques de n'importe quel catch. Parce que là, hormis son finish, elle fera 1m50, ça sera la même chose quoi, au niveau du catch. Hein. Et il n'y a pas vraiment de trucs particuliers qui jouent contre ta taille.
Ouais. Toi, même pour en finir sur ce match-là, même, ouais, c'est psychologiquement aussi, toi. Psychologiquement, elle n'est pas assez dominante, agressive de son adversaire. Un peu aussi à la manière, pour continuer la comparaison, la manière de Rhea Ripley, pour qui j'ai un peu les mêmes reproches, qui dans le trash talking, dans le jeu de regard, ne s'impose pas encore suffisamment, je trouve, face à son adversaire. Donc voilà, il y a encore toutes ces choses-là à faire évoluer.
Et voilà, elles vont y arriver, les filles, elles ont des capacités.
Voilà, je me fais aucun doute là-dessus. Alors, à noter, on en reparlera en clôture de ce show, mais pendant tout ce pay-per-view, on a vu à plusieurs reprises William Regal complètement débordé par les bastons backstage. Il y en a eu plusieurs, hein. Il y en a eu avec les mecs, il y en a eu avec les filles. Il avait la tête qui tournait, le Willy. Entre chaque match, la situation était hors de contrôle, et on verra un petit peu plus tard que ça aura peut-être un impact très très lourd sur la suite des événements. C'est l'heure du main event. Ce main event a fait couler beaucoup d'encre, y compris en interne. On a effectivement du All-Star, de l'ancien champion NXT, du double, du triple crown champion à tir larigot, qu'on balance sur le gros champion, le Big Man, dans un fatal five-way. Donc là, on est vraiment... là, on reprend tous les codes des All-Star Games, quoi. C'est la crème de la crème ce soir qui va essayer de décrocher le titre à Karrion Kross. Et du coup, ce match, il a un goût assez particulier, finalement, face à tout ce qu'on a vu auparavant. C'est que, limite, c'est un truc à part, cette défense de titre, avec donc Kross qui va devoir défendre son titre face à ces quatre gabarits type de NXT, quoi, hein, du technicien d'un mètre 65-70, assez gringalet.
Voilà, des cruiserweights.
Voilà, des cruiserweights, donc gabarit préféré de papy. Donc je vais pas vous faire tout le play-by-play parce que ce match-là, c'était à 100 à l'heure. Dès que Karrion Kross était mis de côté, ça partait dans tous les sens, à se contrer, à s'enchaîner. Le premier face-off qu'on a eu, c'était entre Karrion Kross et Pete Dunne. Hein. Les autres se sont éliminés d'entrée. C'était d'ailleurs un des face-offs le plus intéressant, j'ai trouvé, entre Karrion Kross et Pete Dunne. Honnêtement, les autres, j'en ai plus grand-chose à carrer. Les styles très différents. À un moment donné, Gargano et Dunn ont envoyé Kross à travers la fameuse porte du décorum, du décor de In Your House, qu'il a jarté du match pendant de longues minutes. Hein. Il a beaucoup dormi, Karrion Kross, pendant ce match. Ouais. Voilà, un petit problème. Hein. Face à une grosse foule de smart, ce genre de choses-là, ça serait pas trop passé. D'ailleurs, je me demande si le public n'a pas fait quelques remarques. Karrion Kross est revenu un peu plus tard. Les quatre hommes ont pu se mettre sur la tronche en se faisant des paires à tour de rôle, en se faisant des gros enchaînements. On était dans du indie là, hein. On était je sais pas où à la ROH ou je sais pas où là, où les mecs passent leur temps à s'enchaîner, à se contrer. Vas-y, je te tape, l'autre team tape, l'autre team tape, l'autre team tape. On est tous les quatre par terre étendus sur le ring en attendant les chants This is Awesome. Quand Kross revient, il détruit tout le monde avec une série de power moves. Les mecs à tour de rôle essayent de le faire tomber à coup de clothesline et lancer. D'une O'Reilly, Cole et Gargano s'y mettent tant bien que mal pour se débarrasser du gladiateur, hein, puisqu'il a sa petite jupette. Donc voilà, il y a une bref alchimie entre les quatre, voilà, qui ont presque compris qu'en se débarrassant de Karrion Kross, on pouvait peut-être c'était la façon de gagner le match, mais finalement j'ai pas trouvé qu'il y avait qu'on a joué plus que ça sur cette carte-là. On se débarrassait de Karrion Kross, mais parfois c'était presque par hasard, par opportunité.
Oui.
Toi, mince, on l'a fait passer à travers la porte en carton, ça va le sonner pendant 10 minutes. Eh ben, profitons-en. Il n'y avait pas une stratégie de guerre qui était mise en place.
Oui, c'était lui autant qu'un autre.
C'était ça, exactement. Qui du coup, voilà, était peut-être un petit peu gênant, parce que c'était pas n'importe qui, hein, Karrion Kross. En tout cas, c'est pas censé être n'importe qui.
Limite, ils sont plus battus sur Adam Cole, mais j'y reviendrai tout à l'heure.
Mais oui, tu as raison, puisque l'historique entre Adam Cole et O'Reilly a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. On a eu beaucoup, beaucoup de rappels à leur rivalité, avec des enchaînements, des Panama Masseurelles qui sont placés. O'Reilly qui a dû faire 3, 4, 5, 10 fois son coude, je me rattrape dans les cordes, et en fait, je tombe, mais en fait, non. Et à la fin, on a une séquence que j'ai trouvée très belle, limite ma séquence préférée du match, le finish, avec O'Reilly qui plaçait une soumission sur Adam Cole, mais Karrion Kross se réveille et il chope O'Reilly, et là le selling d'O'Reilly qui a des yeux qui commencent à loucher dans le mauvais sens, là, qui parle, là, il est ailleurs à ce moment-là. O'Reilly donc qui passe tout bleu et l'arbitre est obligé d'arrêter le match. Victoire donc de Karrion Kross avec sa soumission qui s'appelle le Cross Jacket. C'est vraiment ça le nom de sa soumission, je sais pas.
Non, c'est un autre nom ça, attends. Qu'est-ce que tu dis, la Cross Jacket, c'est pas possible.
Non mais attends, parce que j'avais un petit résumé, là je vois le mec, ça s'appelle Cross Jacket. Je dis c'est pas possible, ça s'appelle pas Cross Jacket, parce que là le mec, on fait tout pour qu'il ait l'air ridicule. En tout cas, victoire...
Je cherche au finish, mais ça me semble bizarre.
Ouais, ça, c'est pas possible. Victoire de Karrion Kross, sans surprise. Papy, je suis sûr que tu as plein de choses à dire sur ce match. Déjà, on va dire, plan général, vue générale. Est-ce que l'histoire principale, est-ce qu'il a été booké correctement, ce match?
Ouh, alors tu commences par la question qui va fâcher tout de suite, là. C'est la question sur laquelle... Je pense qu'il y aura peut-être beaucoup de débats. Je ne suis pas sûr parce que finalement, étaient les échos que j'ai vus. Finalement, j'ai eu l'impression que beaucoup de gens étaient peu hypés par ce match. Parce que le booking a été particulier avant le match, où on était finalement pas trop chaud, il me semble. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'étais pas trop. De voir ces quatre gars débarquer d'un coup contre Karrion Kross de manière un peu random. Ah oui, c'est le Cross Jacket vraiment sans finish, merde. C'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. Bon allez, et Crash Jacket, il y a de la jaquette Cross, mais c'est pas grave.
Allez, validé.
On l'accepte comme ça. et donc le match en lui-même, on arrive à ce match-là. Je me suis dit bon, il est pas bien booké, mais il y aura peut-être du grand spectacle. Alors il y a eu du spectacle. Est-ce que le spectacle est dérangeant? Je ne suis pas, en tout cas pas à mon goût. Voilà, je vais le formuler comme ça. Moi, j'ai trouvé que l'histoire du match est complètement passée à côté. D'une part, comme tu l'as dit pendant ton résumé, Kross était présenté comme fort, mais en même temps, il se battait pas forcément pour l'éliminer. C'était pas le Brock Lesnar qu'on va enterrer sur des tables ou ce genre de trucs comme ça. Plutôt, des fois, ça arrive aussi, où tu te mets à tout contraint et que tu fais en sorte qu'il bouge plus. Là, c'était juste, bon, tu fais une prise et puis lui fait sa sieste. j'ai trouvé que les personnages, ça allait pas du tout. Alors, c'est aussi le fait qu'on ait du public pour la première fois depuis longtemps, et du coup, bah, les alignements prévus fonctionnaient pas toujours. C'est-à-dire qu'un Gargano qui heal, il se faisait acclamer, un Cole qui heal, il se faisait acclamer. Le seul face, parce qu'il y a quand même 5 gars, un seul face, qui est notre ami Kyle O'Reilly, et bah, systématiquement, quand t'es dans le ring, c'était les criquets, là, t'attendais pas un bruit. Aspirateur à charisme puissance 1000, crac, et dès qu'il apparaissait, il n'y a aucun encouragement. Donc c'est là où je reviens sur le building qui était foiré complètement, parce qu'un mec comme ça qui était censé être le face, ils auraient comme dû le mettre en valeur les semaines d'avant, ça n'a pas été fait, bah, ça n'a pas raté, personne ne le soutenait.
Et ben voilà.
C'est lui qui a le finish, hein. Donc je présume que c'était lui qui était censé être un peu le héros. Bah, le héros, personne ne le soutenait, tout le monde s'en foutait. Il y a eu un moment, un mec qui m'a semblé sortir un peu du lot. C'est Pete Dunne qui est habillé tout en blanc en plus. Alors je pense que c'est plus une référence à l'équipe d'Angleterre, à mon avis, pour l'Euro ou une connerie comme ça. Mais pour le coup, je me suis dit tiens, c'est peut-être un moyen de faire un face turn, parce qu'à un moment il se retrouve seul contre Karrion Kross et il est limite à le battre à la régulière, parce que je crois qu'il y a une intervention pour l'empêcher de gagner ou une connerie comme ça.
Ouais.
Donc il est vraiment dominant, Pete Dunne, et puis d'un coup, pouf, disparu. On va s'occuper d'Adam Cole et de O'Reilly à la place. Et toi, tu disparais. On t'intéresse plus personne. Et donc voilà. En fait, j'ai trouvé que voilà, moi, j'ai pas aimé du tout l'histoire. Les personnages n'étaient pas du tout utilisés comme il fallait. Gargano, comme d'hab, il est heal, mais il fait que du truc de face, que du truc spectaculaire. Jamais il triche, jamais il fait une entourloupe. Il est propre. Il est même plus propre que quand il est face. je sais pas quoi dire. Donc le match. Il y a plein de segments qui sont marquants, plein de segments spectaculaires. Effectivement, quand les quatre ils sont ensemble, ils font des trucs ultra timés, notamment plein de prises où ils sont à deux contre un, où il y en a un qui commence, l'autre qui fait un kick au finish ou un truc comme ça, qui sont super bien timés. Mais ça faisait limite, c'est bon, on a viré le gros, on va jouer entre nous les copains, les cruiserweights, on va faire notre petit jeu de cirque ensemble. Et moi, du coup, je n'apprécie pas forcément ce genre de spectacle, en fait. Donc voilà, moi je pense que malheureusement ce match est à l'image du booking qui était précédemment fait les semaines précédentes, c'est-à-dire bah c'est ça n'a aucun sens.
Non, ça n'a effectivement, ça n'a eu aucun sens. Alors tu l'as dit, hein, malgré tout. Je me suis surpris à trouver, à apprécier bah, toutes ces séquences hein, que tu as mentionnées avec super timé, super compte, beaucoup de belles trouvailles, des super kicks sur Dena qui fait son moonsault et il se prend deux super kicks. Cole et O'Reilly qui font une power bomb sur Crush, je crois, justement. Voilà, les deux ennemis qui trouvent à un moment
Appel à
donné.
Shield.
Voilà, là, exactement, évidemment, il y avait un petit peu de ça. Donc il y avait des belles séquences. Et puis c'est vrai que les mecs, ils sont talentueux. Les mecs, ils te timent des trucs de dingue, quoi. C'est visuellement, ça claque, c'est super, c'est. Ça raconte rien. Ça ne raconte rien. Ou alors, ça raconte pas la bonne histoire. Et tu. T'as quand même fait l'inventaire de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros, gros défauts en termes de storytelling qui sont, qui, je trouve, sont impardonnables en fait. C'est impardonnable de pas booker ton babyface. C'est impardonnable de pas booker ton babyface dans la road pour ce match-là, puisqu'effectivement, c'est très probable. Alors, très probable, je ne sais pas. Mais tu l'as dit. C'est lui qui a, entre guillemets, failli gagner le match et qui a été le plus valeureux sur cette dernière séquence. C'est lui qu'on a construit lors de sa rivalité avec Adam Cole avec des packages vidéo que je trouvais super enthousiasmants. Toi, le mec, Kyle O'Reilly, ouais, underdog ultime, il a la gueule de l'emploi. Moi, je trouve, il m'a l'air très sympathique ce garçon et tout. Là, on l'a un petit peu oublié au passage. Adam Cole, alors tu dis. C'est un aspirateur à charisme. Alors Adam Cole aussi, c'est un aspirateur à charisme. C'est-à-dire qu'il chope le charisme général et le
Oui.
ramène à lui. Et le public qui est. Enfin, c'est le public que moi, j'étais pas pressé de retrouver. Hein. Ce public qui encourage systématiquement Adam Cole à chaque fois, quoi. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas ça, quoi. Qu'on. Puisse haute. Enfin, on n'arrive pas à être suffisamment. Parce que c'est des smarts qui font ça, on est d'accord?
Bien sûr.
Qui encourage Adam Cole. Alors, certes, il aide pas parce que le mec continue à faire son Adam Cole bébé. Donc, y a deux choses qui vont pas. Il y a ce public smart, que je présume smart, qui est incapable. Les mecs sont censés être smart, qui est incapable de switcher et de dire je vais jouer le jeu, toi. Enfin,
Tu te mets un peu dans l'histoire.
je me mets dans l'histoire, là. Je me laisse porter par l'histoire. Quand bien même je viens de dire que l'histoire était nulle. Mais je me laisse porter par l'histoire. Parce que tu comprends, moi je suis le 12e homme, toi, je fais partie de l'histoire. Moi je suis un spectateur, je veux qu'on me voie à la télé, d'accord. Je veux avoir un rôle, je veux influencer sur le booking. D'accord, très bien. Et si c'est pour encourager Adam Cole, peu importe ce qu'il fait, je sais pas si tu vas avoir beaucoup d'influence sur le booking. Et puis aussi, voilà, je trouve qu'il y a un problème aussi avec des gars comme Adam Cole qui sont pas foutus de amener de la hit vers eux, quoi. Peut-être qu'il devrait aller
Non,
voir
non.
Tommaso Ciampa et qui lui demande, excusez-moi monsieur, mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour devenir le mec qui se faisait insulter, chier sur la tronche par tout le monde, y compris les smarts? Ce
C'est
mec-là,
vrai, c'est
Tommaso
vrai.
Ciampa, il est toujours à NXT, puisqu'on l'a vu dans une vignette assez bizarre avec Timothy Thatcher.
Bah, il est de la low card de chez... il est dans la low card de la tag team, je ne sais pas.
Ah ben il a
Maintenant,
du temps. Non, il a du temps, non?
il
Il
pourrait
peut pas
donner des cours.
donner des cours, là, à expliquer à Adam Cole, il dit, vous l'avez un bébé, là, viens voir, je vais t'expliquer comment on attire la hit. Parce que là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et puis peut-être qu'effectivement, Gargano aussi pourrait aller le voir. Et puis peut-être qu'il pourrait
Ah
lui
ouais.
dire. Excuse-moi, partenaire, puisqu'on était partenaire pendant un bout de temps, mais comment t'avais fait là ton heel turn en fait? Parce que moi j'ai
Gargano,
jamais
il a un
vraiment.
clan, merde! Il a un clan, son mec, il va jamais l'aider.
Où
C'est
était le
complètement nul.
clan de Gargano ce soir? Où était-il? Il aurait dû y avoir une séquence avec le clan de Gargano, quoi, je sais pas, qui intervienne. Personne ne faisait quoi que ce soit, personne n'avait de programmation ce soir. Là, on a eu, tu l'as dit, le Gargano five star match de la grande époque, qui était super, pas de problème. Hein. J'étais le premier à dire qu'il faisait, qu'il nous a vendu du rêve pendant une certaine une grande période, même si sa rivalité avec Adam Cole est pour moi le début de la fin de la Golden Era d'NXT. Pour autant, voilà, le mec est un vrai talent, mais impossible pour lui d'être le sale type qu'il est censé être. Et tout ça mis ensemble faisait qu'effectivement, c'était générique en fait, ça n'allait pas. Et l'autre gros point noir, c'est effectivement le booking, l'histoire du match qu'on essaie de nous raconter, c'est on veut nous mettre fort un mec, un Golgoth, une montagne, un gladiateur, Karrion Kross, qui est un champion qui, à mon avis, va beaucoup souffrir, surtout si le public revient, le public est déjà revenu, et là, on l'aide pas, le mec. On l'aide pas. Parce qu'on n'est pas foutu de raconter l'histoire toute simple de quatre mecs obligés de balancer, comme tu l'as dit, d'ensevelir le gars sous 5 tables, 40 chaises et une grue pour avoir une chance peut-être de gagner. Pourquoi il n'y a pas un mec dans la salle de réunion là, qui s'est dit « Mais attendez les gars, là, on fait fausse route, on veut montrer que ce mec est notre champion et un Golgoth et que tous nos petits stars d'NXT sont obligés de se mettre à la quatre dessus pour le vaincre. » Pourquoi on a oublié ça en route alors que c'est limite l'histoire qu'on a essayé presque de nous raconter en cours de chemin. Enfin, voilà. Je comprends pas.
Il y a un truc, en fait, l'histoire qui aurait dû être celle que tu racontes toi, j'ai l'impression qu'elle s'est transformée en... et en tout cas, c'est comme ça que le public l'a ressenti. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais il a tourné de plus en plus contre Karrion Kross, le public. Parce qu'en fait, l'histoire racontée, c'était Kross est là pour empêcher les quatre autres de faire le spectacle entre eux.
Ouais. Et que ce match-là, il est là par péché d'orgueil. C'est lui qui l'a booké, ce match.
Ouais. Et donc, du coup, t'as le public qui, finalement, ça le saoulait de voir Kross revenir parce que les autres, ils faisaient un match différent quand il était là, en fait. C'est-à-dire qu'ils faisaient un match avec lui. Il dit qu'il était pas là, c'est allez, les copains, on est ensemble, puis bam, on fait des combinaisons dans tous les sens, c'est tout, on est super technique. Et dès qu'il revenait, il faisait du catch pourri, puis hop. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme s'ils avaient voulu en fait le flinguer son match, les quatre couillons là, à pas essayer de le mettre en valeur. À part Pitman, moi je trouve que Pitman, c'est s'il y a un gars à sauver, c'est lui. Franchement, c'est le seul gars pour moi qui, à un moment, il peut raconter quelque chose. S'ils sont assez malins qu'ils capitalisent là-dessus en disant bon, on abandonne O'Reilly et on met tous nos jetons sur Pitman, ça peut donner quelque chose de sympa. Moi je pense que ça se passera pas comme ça. Moi je pense qu'ils vont dire Pitman il va se battre avec un coup de filo, du démarre-toi quoi. Un mec qu'on n'a pas vu, ça n'aura pas de sens.
Ouais, c'est ça. T'as tout à fait raison. On a complètement oublié et là ça ressemblait plus à une soirée de vieux copains ont hijacké. Tu organises une soirée et t'as un vieux groupe de vieux copains qui hijack ta soirée, t'avais prévu un thème et les mecs ils ont prévu un autre thème. Ils ont toutes leurs références à eux, hein, toi à balancer toutes les répliques de Kaamelott, toi tu comprends que dalle.
Relou.
T'avais dit surtout pas de Kaamelott ce soir.
Ouais, c'est pas faux.
et t'as quand même les mecs qui te bouffe la soirée, et le pire, c'est que c'est que ça fonctionne, parce que c'est ce que veut le public, en fait. Et donc, ils retournent tous les invités contre toi. Et à la fin, t'es tout seul, tu vas dans ta chambre, tu allumes ton ordinateur, tu mets ton casque, et tu joues la playlist que t'avais prévue pour la soirée.
Voilà, tu fais ton petit kiff, c'est le public qui veut ça, mais après, je suis pas à dire le public, c'est pas ce qu'il veut, mais si les gars sont à NXT et pas dans le main roster, il y a une raison aussi, quoi. Et donc, s'ils veulent progresser pour être dans le main roster, il faut peut-être à un moment, peut-être, hein, je ne sais pas, hein, mais sortir du « je fais plaisir à ma fanbase ». Quoi. J'essaie peut-être de viser plus haut, plus large, ouvrir un peu mon esprit. Et là, je trouve qu'ils sont passés à côté.
Ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce que je raconte? Quel est un petit peu l'objectif de ce match-là, toi? Pour qui je travaille, en fait? C'est la question que tu dois te poser, en fait. quand tu montes sur un ring, c'est pour qui je travaille. Et là, effectivement, la réponse qui avait l'air d'être pour au moins les, on va dire les 3 cinquièmes des intervenants, c'était le public. C'était les fans, effectivement. Et bah, au final, c'est cool sur le moment. C'est cool pour plein de gens qui vont mettre un 5 étoiles sur ce match juste après l'avoir vu. Mais en termes de booking et de préparer la suite, c'était clairement pas la meilleure combinaison. Bon, mais écoute, c'est l'heure de toucher à sa fin. Mais avant ça, j'aimerais parler très de façon très courte, puisqu'on aura très rapidement les retombées de ce qui s'est passé. Le petit Willy, le petit régal.
Ah bah oui.
Après le match, il a été interviewé. Il avait la petite larme. Et ça n'allait pas. Et il expliquait, écoutez, ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans que je gère NXT. Et j'ai jamais vu un tel bordel, un tel bedlam dans mon émission. Et je crois qu'il est grand temps que ça change. Il faut du changement. Et il part, la petite, l'œil humide, et on entend, je trouve ça très cool, ça c'est le genre de choses qui me manquait un peu aussi, le public qui fait « Non, non !» Parce que le public commence à se dire « Mais attends, là en fait, il se barre !» Et William Regal, « Mais tout le monde aime William Regal !» Même toi, tu l'aimes.
Ben oui, même moi, c'est un peu triste, et pourtant ma première réaction, ça a été « Ben oui, il a raison, faut que ça change. » Oui, William Regal. Bon, après, c'est bien sûr, il y a du kayfabe. Kayfabe, ah, je vais arriver à le dire. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité là-dedans, quand même, à se dire, NXT, là, ça fait des semaines, et je pense que beaucoup de gens savent le dire, et les audiences, d'ailleurs, ne trompent pas. Hein, il y a de moins en moins, enfin, il y a peu de gens qui regardent, et même peu de gens qui sont hypés. Et même le retour qu'on a nous sur nos reviews, hein, c'est tu sens bien qu'NXT il est vraiment en dessous des autres en ce moment. Il est vraiment plus trop le regard. Et est-ce que justement il n'y a pas besoin d'un nouveau souple? Alors ça m'embête parce que moi j'aime beaucoup Regal, je trouvais que c'était un super général manager, notamment quand il était impliqué au début, il sortait un War Games qui te faisait trembler la maison entière de NXT. Mais là, ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus de structure, je trouve, à NXT. Et peut-être que dans cette histoire qu'ils veulent nous raconter, il y a un fond de vrai de dire il est temps de remettre du sang neuf dans NXT et de recadrer un peu tout ça et peut-être de construire des vraies histoires. Là, on a eu un main event qui n'avait pas d'histoire. Qui n'avait pas d'histoire. Qui était foiré oui. Complètement. Et donc, il y a peut-être besoin de reconstruire quelque chose. Alors, je ne sais absolument... Je n'ai pas vu le NXT de mardi. Alors nous enregistrons et donc du coup je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je peux dire les bruissements parce que c'est des bruissements, donc c'est pas un spoiler, c'est des bruissements. Il se bruisse que Regal serait remplacé par un ancien champion NXT. Alors je sais pas si je peux le dire ou si je garde le suspense.
Faut garder le suspense.
Je garde le suspense parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais donc il se bruisse qu'il y aura un remplacement. Pourquoi pas. Effectivement, en tout cas, Regal avait l'air bien vidé à la fin de ce show. c'était certainement, bah c'était faux, bien sûr, c'était joué, mais moi j'ai voulu voir une part de vérité en se disant bah non, mais plein le cul de ces cons là qui n'en font pas leur tête, qui nous pourrissent le main event. Et donc je me suis dit à ce moment là je suis William.
Vous voyez, le regard de papy transperce le cœur et l'âme du show jaune. Il a vu qu'au fond, tout ça, il y avait un peu de vrai. Il y a un peu de vrai, je suis comme toi, je pense qu'il y a un petit peu de vrai. Et d'ailleurs, ce main event, voilà, c'est une espèce de photo finish de toutes ces années d'NXT passées sous le contrôle et la créativité et l'implication énorme de William Regal qui a connu. Mais ce que je me disais, c'est... Oui, William Regal, il n'est pas encore au Hall of Fame, on est bien d'accord.
Je pense pas, j'ai pas ce souvenir là, moi.
Je pense que ce qu'il fait là, et ce qu'il a fait, et ce qu'il va continuer de faire pour NXT, ça vaut une bague en soi de Hall of Famer. Parce que c'est assez magique ce qu'il a réussi à faire dans une période où les GM étaient soit ridicules, soit il n'y en avait plus. Il est le cœur et l'âme du show, en fait, hein, parce que les gens passent et disparaissent, même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Dans ce show, lui est toujours là, tu l'as dit, il a fait partie de grands moments de booking intense. Voilà, cette dernière ligne droite qui est envoyée vers les pay-per-view était fantastique avec les Wargames, mais plein d'autres stipulations, et puis le mec il rentrait dans les gars, et puis il dit « Ah, voulez-vous régler ça ? Ben, ça va se passer dans le ring !» Et puis, enfin, vraiment, il y avait toujours de l'intensité, et puis, il avait aussi beaucoup de... C'est un personnage aussi avec beaucoup de cœur, qui prenait beaucoup sous son aile les petits jeunes, ou les mecs un peu paumés, encore bah, récemment le champion Kushida, Cruiserweight, à un moment il l'a pris, il dit viens, faut qu'on parle, enfin voilà, il y avait toute une voilà, c'est un mec qui est totalement investi, et c'est vrai que voilà, on marque la fin d'une époque probablement avec ces deux séquences, ce gros match qui était une espèce de gala, un match de gala, tous ces catcheurs que vous aimez, mais voilà, à la fin, un nouveau champion, une nouvelle ère qui va commencer. Et puis cette petite séquence de William qui nous dit peut-être pas un adieu, mais un petit au revoir, quoi. Je reviens et les choses seront différentes. Ce ne sera plus jamais pareil. Donc bah, on veut bien le croire, on a envie de le croire, parce qu'on a envie que les choses changent un peu aussi à NXT.
C'est comme tu dis, il a fait un gros boulot. On sait aussi que c'est un mec qui travaille énormément backstage au Performance Center. Et donc moi ça me rappelle un peu un gars comme Dusty Rhodes, en fait.
Ah oui.
Un mec qui avait marqué, alors même si ça n'a pas été aussi grand que Dusty dans sa carrière in-ring, Regal, encore qu'il y a eu des moments marquants quand même, mine de rien, ce qu'il a fait en dehors, je pense que ça, oui, comme tu dis, c'est une génération complète qui sera marquée par son passage. Après, on dit ça s'il s'en va, hein, parce que officiellement, il a juste dit que ça allait changer. Hein, mais c'est vrai qu'on
a l'occasion de faire un petit bilan, un petit point, et de prendre la mesure de ce que ce bonhomme a apporté, quoi.
Tout à fait. Mais c'est vrai que ça fait quand même un bout de temps que ça bruise, qu'il s'en aille, parce qu'il me semble qu'il y avait déjà eu ces bruits-là au moment où ils avaient lancé les ceintures tag team de NXT, où il avait dit qu'il allait faire une grande annonce. On pensait qu'il allait partir. Ouais. Je pense que si ça bruisse autant, c'est que bah, il doit aussi dans l'idée de changer ce truc-là. Peut-être pour lui aussi, peut-être qu'il veut souffler un peu et à d'autres projets. Mais en tout cas, effectivement, c'est drôle en fait, parce que tout à l'heure t'as dit un truc. Ça méritait peut-être un compte-part du catch. Voilà, je lance une perche, mais il y a vraiment une golden era de NXT. Et je te rejoins totalement sur la période, parce que moi, la période dont tu dis où ça a commencé à partir un peu en vrille, bah moi, c'est à ce moment-là où j'ai arrêté de regarder, parce que j'ai arrêté de regarder NXT pendant quelques temps, et j'ai repris il y a quelques mois de ça maintenant. Mais c'était justement ce passage-là, Adam Cole, Gargano, où là, j'ai commencé à décrocher, en fait. Et c'est vrai que tout ce qui est avant, c'était du pur bonheur, quoi. Il y avait des moments innombrables, des moments de réussite d'NXT.
Ouais, ils ont été nombreux, et voilà. Donc, c'est sûr que voilà, c'était tellement incroyable au firmament et des pay-per-view 5, 10, 15, 30 étoiles qu'évidemment, genre, voilà, on est très, très dur, peut-être, hein, parce que ça reste quand même voilà, un super. C'était quand même un très bon pay-per-view, en tout cas un pay-per-view solide. Du coup, si tu veux bien, c'est l'heure du mot de la fin. Mais avant ça, tu as un petit avis à nous partager.
Oui, et ben on va commencer par notre invité du podcast, hein, malheureusement qui est absent, mais qui souhaitait quand même laisser son avis. C'est un fan de catch qui n'aime pas trop les luchadors et qui s'appelle Tonton Chris. Et donc, Tonton, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a trouvé ça pas mal, en fait. Et il avait zappé les Dark Weekly parce que ça commençait un peu à le saouler. Et donc, du coup, ça l'a aidé un peu à retrouver un peu d'envie en regardant ce pay-per-view. Même s'il n'était pas du tout chaud pour le main event, voilà, un de plus. Son top, c'est Shali. Alors lui, il est fan, il est in love. On va dire les choses telles qu'elles sont. Il adore le clan, la musique, le mystique, le physique de Shali. Il a kiff à mort. Et en plus, comme il aime bien aussi Mercedes, bah, du coup, il s'est fait un vrai kiff avec ce match-là. Son flop, alors il pense que ça va faire hurler, mais je ne pense pas parce que la review le prouve. C'était le main event parce qu'il n'était pas chaud du tout. Il pensait pas que Cross pouvait perdre. Et donc, du coup, bah, pas de suspense. Il s'est pas intéressé. il a, comme nous, pas trouvé que le 5-way était mal exploité et que du coup, bah, même s'il y avait beaucoup de rythme, bah, il n'arrivait pas à se mettre dedans, pas à y croire en fait. Et donc du coup, il pense qu'il faudrait faire bouger les choses et que s'il devait faire monter des gens dans le main roster, bah, du coup, ça serait plutôt Cross qui bien sûr sort du lot et Piton, tu vois, un peu comme moi finalement, qui l'a bien aimé dans ce match-là. Et les autres, en fait, bah, il n'en veut plus. Ils l'ont trop saoulé, puis ils pensent que s'ils vont dans le main roster, bah, ils vont se cracher, simplement, parce que bah, voilà, ça n'avance pas du tout de leur côté. Et donc, sa note, il va donner un bon 3, qui était en dessous d'un peu des takeovers, mais qui reste des matchs de bonne qualité, quoi, sans être foufou, comme dirait Tonton.
Oui, toi, Papy.
Et moi, Papy, qu'est-ce que je dis et ben, c'est marrant, parce qu'en fait, je souscris pas mal de choses de Tonton, et pourtant, malgré tout, je vais donner mon top à son flop. Je vais donner mon top au match de Chiali. Parce que simplement, je trouve que ce match-là, la façon dont il a été fait, la façon dont il a été booké, c'est pas un match digne d'un takeover, en fait. Ils auraient dû plus travailler les weekly et à la limite avoir ce payoff en takeover avec en plus l'intervention de la chef de clan. Mais là, avoir ce match qui tombe un peu du ciel et pour 7 minutes et des bananes, je trouve que voilà, c'est pas digne d'un takeover. C'est pour ça que je donne mon flop. Donc voilà, donc je sauve le main event qui pour moi était pourtant vraiment pas bon. Bah, alors, d'ailleurs, j'en profite pour donner la durée parce qu'il a quand même duré 26 minutes 15, donc c'est du gros main event. Et donc forcément, c'est pas lui qui aura mon top. Mon top, bah, moi, je le donne à l'opener parce que voilà, je parlais du main event qui racontait aucune histoire et puis qui faisait pas le taf. Bah, l'opener a fait le taf, c'est-à-dire qu'il a bien chauffé la foule sans non plus en faire de trop, et donc j'ai trouvé qu'il était parfaitement calibré. Et les six gars, bah, moi, en plus c'est six gars que j'aime beaucoup, donc ils ont fait du bon spectacle, donc bravo à l'opener. Et ma note, bah, je vais être un peu moins généreux que Tonton, je vais donner un 2,75 simplement parce que pour moi il finit sur la mauvaise note. Ça, si on avait fini en inversant les deux matchs là, si j'avais été content du main event comme j'étais content de l'opener, j'aurais donné certainement plus. Mais là, j'ai fini en étant blasé, donc je donne un 2,75.
Ouais, effectivement. Bah écoute, moi je vais donner la même note que toi. Je trouve que c'est une note qui montre pas mal la frustration sur laquelle on se retrouve un petit peu à la fin. Sur ce main event qui est beau, mais c'est de l'esbrouf. C'est de l'esbrouf tout ça. C'était juste une nouvelle itération de main event qu'on a déjà vu trop de fois à NXT et dans les takeovers. Et pour moi, c'est voilà, si tu prends vraiment comme un match de gala, alors c'est bon. Mais dans ce cas-là, à la limite, il fallait pas Karrion Kross, toi, une espèce de match, oui. Une stipule genre. Qui est le meilleur de NXT, toi? Who's the best NXT, quoi? Quelque chose comme ça. Mais là, on a voulu faire deux choses en même temps. Faire un All-Star Game et en même temps mettre over Karrion Kross. Et c'est là où on a fail. Et du coup, je vais mettre mon flop à Karrion Kross. Pas le bonhomme en lui-même, même si je n'aime pas du tout ce personnage. Et très très peu le catcheur qui est derrière, il fait vraiment passer zéro émotion. Mais le booking, enfin vraiment, le mec était oublié et a abandonné, quoi. Et ça s'est trop trop vu, quoi. Et c'est très 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 dommage. En top, ben, vous avez donné un peu mes tops déjà, tout ce que j'ai aimé. Du coup, j'hésite un petit peu. Et je vais le donner, écoute, à Humber Moon. Humber Moon qui avait le feu ce soir. Et je lui ai donné un top coup de cœur. Coup de cœur, Humber Moon, qui, effectivement, méritait, a tout à fait raison de dire qu'elle était une ancienne championne et qu'elle avait tout à fait sa place dans ce takeover in your house, voilà, qui reste un petit peu mitigé. Mitigé, il faut que les choses changent et elle devrait visiblement changer avec cette dernière séquence complètement folle de Willy. Catch Up, c'est le podcast qui transpire le catch et qui analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes audio de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, PodCloud, Ocha, Deezer, Spotify, mais également YouTube. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre top, votre flop et votre note. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Est-ce que vous avez apprécié ce main event pour ce qu'il était, c'est-à-dire voilà, un festival, un showcase de toutes vos stars préférées de NXT. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Catch-up CDC pour Twitter, Facebook et Instagram. Discord, le lien est dans la description. Je te remercie, Papy, une fois de plus, d'avoir été mon partenaire pour cette soirée.
Ben, merci à toi pour l'organisation et puis pour le play-by-play qui n'était pas évident vu la densité des matchs.
C'est jamais évident, hein, les reviews de pay-per-view avec tous ces play-by-play, mais il y avait pas mal de choses à dire finalement pour tous ces matchs. On rentre dans une nouvelle époque. Je ne sais pas si tout le monde le perçoit comme ça, mais on rentre dans une nouvelle époque et bah, peut-être que ça y est, enfin, on a décidé de le faire vraiment du côté des bookers. Et du coup, bah, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour savoir ce qu'il en est, hein, qu'est-ce que William Regal a prévu pour la suite. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut patron, salut à tous. Tu sais, c'est quoi, c'est le défaut, à mon avis, de Regal? C'est une bonne poire, William.